Bonjour et bienvenue sur le podcast Jurinova, le Legal Counsel Training de la carrière juridique des juristes talentueuses et talentueux qui veulent impacter le monde de l'entreprise positivement grâce au juridique, c'est-à-dire faire bouger les lignes. Je suis Cynthia Anison-Lorbert, fondatrice du cabinet Jurinova, consultante en transition professionnelle et career coach certifiée, spécialiste en stratégie de carrière pour les professionnels du droit. Chaque semaine, je vous délivre des tips et des conseils carrière précis et applicables immédiatement pour valoriser votre carrière et vos compétences, pour booster votre visibilité et pour surtout construire une carrière valorisante qui a du sens et un équilibre de vie sain grâce aux opportunités en entreprise. C'est parti ! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jurinova Podcast consacré au syndrome de la bonne élève. J'aimerais vous partager ici les effets, les erreurs et les stratégies de ce syndrome de la bonne élève. En effet, lors des accompagnements, bilan de compétences orientation, mobilité, prise de poste ou développement professionnel que je réalise auprès de vous, juriste ou manager juridique, que ce soit les responsables juridiques ou les directrices-directeurs juridiques, le syndrome de la bonne élève fait régulièrement son apparition lorsque vous doutez de vous face à une nouvelle situation et que vous avez besoin de l'approbation de votre manager, de la validation d'un ou d'une collègue ou d'un autre collaborateur. Pour commencer, je vais vous poser quelques questions. Les effets du syndrome de la bonne élève. Alors, ce peut être également le bon élève. Dans les situations classiques, on parle toujours de bon élève. Mais j'accompagne également des hommes sur ce point. Okay ? Donc, voici quelques questions. Avez-vous déjà vécu une des situations suivantes ? Quand vous travaillez sur un projet, est-ce que vous passez beaucoup de temps à relire et corriger les erreurs de typo et à trouver les mots justes jusqu'à ce que ce soit parfait ? Quand vous vous trompez, est-ce que vous pensez que vous êtes nul ? Quand vous devez faire quelque chose que vous ne savez pas faire, est-ce que vous lisez tout ce que vous trouvez sur le sujet pour l'étudier ? Est-ce que vous vous achetez un cours en ligne ou un bouquin ? Ou est-ce que vous passez beaucoup de temps à explorer la question ? Est-ce que lorsque vous pensez à une promotion, vous vous dites « bah si je bosse bien, de toute façon, on viendra me chercher, il ne faut surtout pas demander ». Est-ce que dans le cadre d'une négociation salariale ou d'une revalorisation, vous vous dites « ils vont me donner ce que je mérite » ou « la rémunération va correspondre à l'estimation qu'ils font de ma valeur » ? Avez-vous le syndrome de la bonne élève selon vous ? Est-ce que vous avez toujours à cœur de bien faire ? Êtes-vous du genre à vouloir faire les choses parfaitement ? Êtes-vous dans l'attente de la reconnaissance de personnes que vous pensez supérieures à vous, plus hautes dans la hiérarchie, plus âgées que vous, plus expérimentées, plus diplômées ? Stressez-vous quand vous avez fait une présentation ou rendu un projet que vous jugez moyen ? Êtes-vous au fond du seau quand vous commettez une erreur ? Cela, ce sont des effets du syndrome de la bonne élève. La chose que j'ai envie de vous dire à propos de cela, c'est que c'est parfaitement normal. Et nous allons en découvrir pourquoi. Et nous allons découvrir pourquoi cela est normal dans cet épisode, ensemble. Définition du syndrome de la bonne élève. Le syndrome de la bonne élève, pour bien mettre les choses en perspective, ce n'est pas à proprement parler un syndrome au sens médical du terme. C'est simplement un système de pensée, un ensemble de pensées et de croyances que l'on a depuis longtemps et qui sont donc bien établies et qui nous conduisent à penser qu'il y a une sorte d'inadéquation entre ce que l'on comprend des attentes envers nous, des étapes à suivre, des règles à respecter et le niveau d'exigence de nous-mêmes que nous nous infligeons à nous-mêmes, d'une part, et d'autre part, avec les comportements attendus en entreprise, la prise de responsabilité qui est liée à ces comportements attendus et la confiance que l'on doit dégager qui est attendue dans le poste. Vous avez le syndrome de la bonne élève française. J'ajoute française entre parenthèses, bien entendu, puisque je pense qu'il y a un aspect culturel très fort à vivre ce syndrome, car il renvoie à l'école et à la façon dont nous sommes instruites, aux méthodes d'enseignement, de notation, à l'apprentissage par cœur qui est pratiqué en France. C'est différent dans d'autres cultures, je pense notamment aux États-Unis, où l'on apprend davantage par essai-erreur, et la pensée critique également est fortement développée, okay, pour en retirer un enseignement, justement, pour ne pas reproduire la même erreur. Vous ressentez le besoin de vouloir bien faire les choses, dans les règles, selon les étapes de la procédure définie, dans les délais impartis, dans 99% des cas chez les clientes et clients que j'accompagne, car ce n'est pas que féminin, je le répète ici, c'est aussi masculin pour les bons élèves. Vous avez ce besoin de vouloir bien faire les choses et ce besoin d'avoir la validation d'un regard extérieur, de la part de quelqu'un d'extérieur à votre dossier, à votre mission. C'est un peu comme lorsque vous faites appel à un coach ou lorsque vous faites appel à un formateur et que vous voulez que quelqu'un repasse derrière vous pour vous signifier que c'est juste et vous valide votre travail. Vous souhaitez que cette personne vous relise, regarde votre travail, dise « oui, c'est bien, tu as 20 sur 20 » ou alors « non, c'est mal fait, tu as 0 sur 20 ». Je force involontairement le trait ici dans cet exemple. Vous vous rendez bien compte, quand je le présente comme cela, que ce n'est pas forcément une très bonne chose. Et pourtant, c'est un comportement répandu une fois en entreprise chez les juristes. Et donc, la bonne élève est en panique dès qu'elle est confrontée à quelque chose qu'elle ne connaît pas ou qu'elle ne sait pas faire, à quelque chose de nouveau. Elle est en panique dès lors qu'elle sort de sa zone de confort, la zone des process connus, des process existants dans lesquels elle assure car elle maîtrise les compétences nécessaires, les étapes une à une et les règles et process à respecter. Et cela nuit au développement du leadership de cette bonne élève, de votre leadership. Cela nuit à votre capacité à leader les personnes et les projets autour de vous, à inspirer les autres et à insuffler de la confiance. Troisième point, erreur commise. Cette volonté fixe de vouloir tout faire, tout comme il faut, parfaitement, et de suivre religieusement les étapes qu'on nous donne, et je sais que cette description va parler à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre vous, vous allez vous reconnaître dans bon nombre de situations vécues, et je les ai vécues plusieurs fois au cours de ma carrière, et je ressentais un inconfort, un décalage, et je ne me sentais pas à ma place, mais je ne comprenais pas encore pourquoi, et ça peut encore m'arriver dès lors que je dois faire face à un nouveau sujet, à un nouveau contexte, à un nouveau domaine. Mais par rapport à cela, j'avais vraiment envie de vous dire qu'il faut comprendre une chose, c'est que quand on est en entreprise, dans les affaires, au cœur du business, il n'y a pas vraiment une bonne manière de faire les choses et une mauvaise manière de faire les choses. Il n'y a pas un parcours type sur lequel on peut vous noter sur 20. Vous n'êtes jamais noté sur 20 et vous n'êtes pas sûr de réussir quand bien même vous faites tout ce qu'on vous dit, si vous obéissez à toutes les instructions et injonctions reçues, si vous en recevez d'ailleurs. Et à l'inverse, ce n'est pas parce que vous loupez la moindre étape que là, ce sera la catastrophe et que vous perdrez des points, voire que vous aurez en dessous de 10. Quatrièmement, les sources. D'où vient ce syndrome de la bonne élève? De votre éducation et de la façon dont vous avez été socialisé. Si vos parents ont été très attachés à votre réussite scolaire, à votre carnet de notes, il y a des chances que vous en soyez victime, plus facilement victime, je dirais. Pour certaines personnes, l'association est devenue limpide dans leur cerveau. Bonne note égale avoir tout ce que je désire et l'admiration et l'amour de mes parents. Mauvaise note égale pas de gratification et même punition. Donc, une sensation de honte et de gêne vis-à-vis de mes parents. Évidemment, cette association dans votre cerveau, je peux dire qu'en tant qu'adulte, elle ne vous rend pas service, en tout cas dans une certaine mesure. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que si vous vivez ce syndrome de la bonne élève, c'est lié à votre histoire et aux pensées que vous avez formées dans votre enfance qui se répètent encore aujourd'hui comme un schéma répétitif. Votre cerveau a associé une bonne note à quelque chose de positif qui déclenche une satisfaction immédiate. Votre cerveau a associé le respect des instructions du devoir donné par l'instituteur ou le prof à quelque chose de positif qui déclenche une valorisation extérieure du prof ou des parents ou des amis, etc. À cette satisfaction, il lie également la gratification de la reconnaissance extérieure, donc le jugement de l'autre sur vous-même, sur votre propre valeur. Le carnet de notes, les félicitations du conseil de classe, les bravos des parents, la fierté des grands-parents, et éventuellement le petit billet glissé dans la poche en guise de récompense, puis la satisfaction des profs. C'est un cercle vertueux en apparence. En soi, c'est vrai que cela semble vertueux. Une bonne note et tout le monde est content, ce cercle visiblement vertueux se poursuit dans le monde adulte. Et c'est parfaitement normal parce qu'on a été élevé dans un système, dans ce système éducatif, dans ce système scolaire, dans un système pédagogique où cela fonctionne comme cela. Concrètement, dès qu'on devait apprendre de nouvelles compétences, développer de nouvelles capacités, faire des choses nouvelles, on avait un maître ou une maîtresse qui nous expliquait les méthodes, les étapes à respecter, les instructions à respecter, puis il nous disait « oui, c'est bien » ou alors « non, c'est mal » et là, c'était la mauvaise note ou la punition. Parfois renforcée par nos parents qui nous félicitaient quand on avait des bonnes notes et qui, au contraire, nous grondaient ou nous privaient de quelque chose pour nous faire comprendre à quel point c'était mal d'avoir des mauvaises notes. Et donc, c'est normal, une fois adulte, lorsque l'on essaie de développer des compétences, d'acquérir de nouvelles capacités, comme par exemple en business, en négociation contractuelle, que l'on soit à la recherche, plus ou moins consciemment, de quelqu'un qui corrige derrière nous et qui nous dise « oui, c'est bien » ou « non, c'est mal ». C'est ce que j'appelle le fameux syndrome de la bonne élève. Cinquièmement, les bons petits soldats. Les bons élèves sont en général de bons petits soldats dans le monde du travail, des salariés consciencieux, rigoureux, à la force de travail développée quand ils entreprennent. Donc les juristes sont des personnes fiables, qui rendent leur travail dans des délais, qui sont capables de créer énormément de choses en peu de temps. Les juristes sont consciencieux, rigoureux, avec une force de travail extrêmement développée. Avoir le syndrome de la bonne élève, on ne va pas se mentir, hein, cela permet d'obtenir des résultats rapides et de réussir en entreprise très rapidement au début de sa carrière. C'est donc un super syndrome pour décrocher des premiers postes de management ou atteindre un premier palier de développement au sein de l'entreprise comme des promotions. Cependant, le syndrome de la bonne élève entrave la capacité à l'idée. Le problème commence à se poser sérieusement quand une bonne élève intègre le monde du leadership. Pourquoi, me demandez-vous? Sixième point, du syndrome de la bonne élève à son identité nouvelle, le leadership. A. Le syndrome de la bonne élève bride la créativité et l'expression de soi. À l'école, on apprend à avoir une bonne note. Le prof nous donne une formule à appliquer, on apprend par cœur. Ou alors, on apprend à écrire une dissertation avec thèse, antithèse, synthèse. Lorsqu'on applique la formule, on arrive à avoir globalement une note correcte. Le problème, c'est que pour le leadership, il n'y a pas de formule toute faite. Il y a autant de formules et de styles qu'il y a de leaders. Et donc, la bonne élève est en panique dès lors qu'elle est confrontée à quelque chose qu'elle ne connaît pas ou qu'elle ne sait pas faire. Une mission pour laquelle elle ne maîtrise pas encore toutes les compétences requises, tous les codes, tous les process. Parfois, il n'existe même pas de process encore. Okay, il faut tout créer parfois, de A à Z. Lorsqu'il n'y a pas de formule à suivre, une méthode définie, un process, des étapes clairement exprimées, elle perd ses capacités de leader. Elle a peur de ne pas réussir à faire parfait. Le syndrome de la bonne élève s'exprime alors dans toute sa splendeur. Dans cette situation, elle doute et l'hésitation fait son apparition. Elle part donc à la recherche de solutions et de validations extérieures à elle-même. Elle oublie de faire appel à son bon sens, à sa créativité, à son propre style. Elle oublie de se faire confiance, de croire qu'au fond, elle sait déjà beaucoup de choses pour s'en sortir dans ce challenge-là. Elle pense à tout ce qu'elle ne sait pas et tout ce qui ne va pas, au lieu de penser à tout ce qu'elle sait déjà et tout ce qui va déjà, et d'inventer une solution à partir de ces éléments-là. B. Le syndrome de la bonne élève crée un manque de confiance en soi. Une bonne élève cherche la gratification de la bonne note. Donc, à chaque travail finalisé, elle attend de la reconnaissance positive de son manager, de ses collègues, une prime, un mot sympa de ses collègues. Chaque effort de plus doit donner droit à une validation en plus, comme lorsqu'elle était enfant par ses parents ou ses profs, ou les grands-parents. Un peu comme les bons points à chaque bonne action. Un bon point et au bout de 10 bons points, un tampon, et dans la classe de mon fils, c'est même au bout de 10 tampons, un cadeau. Si vous avez le malheur de tomber sur une équipe, un manager ou un secteur au sein duquel on ne vous donne pas de feedback positif, alors là, c'est la catastrophe. Votre cerveau crée une association immédiate entre pas de reconnaissance d'un côté et une valeur humaine dégradée. Voilà ce que vous vous dites. Si je n'ai pas de feedback positif, ça veut forcément dire que je suis nul, pas à la hauteur. Le syndrome de la bonne élève génère alors un manque de confiance, du doute, de l'hésitation et un sentiment de dévalorisation de soi. Vous doutez de vous, de vos capacités et de vos résultats. C. Le syndrome de la bonne élève empêche l'esprit critique. Lorsque vous demandez aux autres d'estimer, de valider vos dossiers, vos projets, vous accordez beaucoup de valeur à ces personnes qui savent mieux que vous, selon votre propre analyse, car vous leur octroyez le pouvoir de vous juger, de vous noter. Ces personnes peuvent être les plus expérimentées, les plus âgées, les plus hautes dans la hiérarchie, les experts, un peu comme les profs. Et donc, vous prenez tout ce qu'ils disent et tout ce qu'ils font comme faisant loi. Et puisqu'ils le disent et qu'ils le font, c'est forcément bien. Et votre esprit critique est aveuglé par la hiérarchie de valeurs que crée votre cerveau entre eux, les sachants, et vous-même. Or, dans la posture de leader, savoir peser le pour et le contre, remettre en question ce que l'on vous dit et prendre la responsabilité de vos propres décisions est essentiel. On ne peut pas toujours s'appuyer sur quelqu'un qui sait en entreprise et parfois ce qu'il sait ne va pas vous correspondre, ne va pas vous permettre de créer la solution adéquate à votre problématique. Il faut accepter de se mouiller et de prendre des risques sans avoir toutes les informations adéquates. Certains points peuvent rester incertains et obscurs. Il faut accepter de se mouiller dans ce cas-là et de prendre des risques sans savoir vraiment quoi faire. Vous devez prendre une décision, construire une solution à partir de ce que vous avez sous les yeux. D. Le syndrome de la bonne élève est épuisant. Il est à l'origine de comportements perfectionnistes. Et la personne parfaite travaille énormément, et travaille même beaucoup trop car elle vise le 20 sur 20 dans tout ce qu'elle fait. Et comme elle est une bonne élève, elle est à un bon poste. Et comme elle est à un bon poste, elle a beaucoup de responsabilités. Et comme elle a beaucoup de responsabilités, elle veut tout faire parfaitement, et ça lui prend beaucoup de temps. Et en plus, elle a du mal à déléguer, car les autres ne peuvent pas faire aussi bien qu'elle. Et imaginez un peu qu'un collaborateur fasse un truc pas top, pas cool, elle en serait responsable. Ce n'est pas possible pour elle d'envisager que ce soit le cas. Alors, autant tout faire elle-même. À ce propos, je vous invite à écouter le podcast sur les cinq erreurs qui bloquent la carrière des femmes, d'accord? Parce que ça va rejoindre un des éléments. Et ça me fait beaucoup rire parce que je me retrouve à chaque fois dans ce descriptif puisque je l'ai vécu pendant ma carrière en entreprise également. Vous voyez et vous savez comme moi que cette quête de perfection, le fait de vouloir tout faire pour réussir, tout faire seul, tout donner, sans filtre, sans limite, est l'une des causes de l'épuisement qui mène ensuite au burn-out. Septièmement, les stratégies pour tirer parti de ce syndrome de la bonne élève. Le but du jeu ici, pour contrer ces erreurs de pensée et de comportement de la bonne élève, donc les comportements perfectionnistes qui en découlent, et tirer un enseignement du syndrome de la bonne élève, est de s'interroger. Comment je m'adapte à mon contexte? Première stratégie, capitaliser sur ses acquis, sur ses forces. Dans un premier temps, lorsque vous sentez que la perfection, le côté parfait, revient au galop dans une situation nouvelle, une situation faite d'incertitude, et que vous vous sentez en non-maîtrise et en panique, je vous invite à capitaliser sur ce que vous savez faire de manière automatique, comme un robot, pour vous dégager du temps pour ce que vous devez apprendre et découvrir. Concrètement, vous devez réorganiser votre agenda pour passer moins de temps sur ce que vous maîtrisez déjà et libérer votre agenda pour y inclure des phases d'apprentissage et de réflexion. C'est ce que nous faisons pendant les accompagnements, car seul, on a très souvent du mal, car nous avons la tête dans le guidon, on n'y voit plus clair, il n'y a plus de clarté. Et notre cerveau, qui cherche à nous protéger car il ressent cette peur liée à la non-maîtrise et à l'incertitude, va nous encourager à rester dans des tâches maîtrisées et connues qui ne sont pas censées nous prendre beaucoup de temps. Donc, on a l'impression de ne pas avoir assez de temps pour le reste. C'est ce que l'on appelle un biais cognitif. Il s'agit ici d'apprendre à accepter que dans un premier temps, ce ne sera pas au niveau de ce que vous maîtrisez parfaitement, mais qu'avec le temps, vous allez progresser et vous développer. Et vous parviendrez à un niveau qui vous satisfera avant de ressortir de votre zone de confort à nouveau. Deuxième stratégie. Faire preuve d'agilité, faites du tri en entreprise, en business. Je pense vraiment que c'est le secret de la réussite, le secret du succès. Le savoir, effectivement, et accepter que suivre des formations, suivre des méthodes, suivre les étapes du process et des procédures, suivre des choses qu'on vous apprend, c'est très bien, mais aussi savoir les adapter, savoir les interpréter à sa sauce, savoir prendre ce qui est bon, ce qui vous correspond, et savoir laisser de côté ce qui ne vous correspond pas ou ce que vous estimez ne pas fonctionner pour vous, ce que vous estimez qui ne vous est pas utile. Faites du tri. Développez votre esprit critique. Faites-vous confiance. Et je pense qu'une fois intégré cette nécessité d'être flexible, d'être agile face à ce que vous apprenez, ce que vous découvrez, une fois intégré cette mentalité de flexibilité, d'adaptabilité, d'agilité, de prendre ce qui vous va et de laisser ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous est pas utile, savoir interpréter les choses à sa sauce, faire son marché et ensuite inventer sa propre manière de faire, sa propre méthode, ses propres process. Je pense que c'est vraiment là que réside la clé du succès, la clé de la réussite en entreprise, en qualité de leader, et vous arrivez à produire des résultats incroyables en tant que leader en appliquant cette stratégie. Donc, pour l'idée, je vous propose d'être une moins bonne élève à un moment donné. C'est vrai qu'une bonne élève, c'est super top parce que ça fait tout bien, c'est fiable, mais jusqu'à un certain point, l'épuisement, le burn-out. Donc bien l'idée, vous devez apprendre à être un peu moins bonne et à vous préserver. Il n'y aura pas toujours de notes. Parfois, les choses seront moins lisses que dans une dictée, mais c'est cela qui fait le sel, l'intérêt du leadership. En tant que leader, vous pouvez apprendre à dresser une vision claire de votre objectif en bonne élève et puis ensuite accepter que le chemin, pour atteindre cette vision, sera peut-être un peu moins polissé, ressemblera au parcours de l'étudiant qui a changé de voie plusieurs fois, qui a pris une pause en deuxième année de droit, qui a fait deux Erasmus dans trois pays différents. En fait, tous vos acquis de bon élève peuvent vous servir pour tout ce qui demande moins de temps de cerveau, mais un travail robotique automatique ainsi qu'une rigueur d'esprit. Et pour tout ce qui est à construire, à découvrir, à créer, à apprendre, laissez-vous la possibilité d'être une élève moyenne qui teste, qui ose, qui s'aventure, qui apprend, qui se développe, pour essayer de faire au mieux avec ce que vous avez. C'est comme cela que vous développez votre leadership et non dans la perfection imaginaire de ce qu'est une leader. Je vous garantis qu'avoir des mauvaises notes remet les idées en place. Cela challenge, cela encourage la créativité et l'audace et il en ressort toujours des solutions super structurées. Alors, que diriez-vous de lâcher du lest et de tenter le juste bien sans la perfection? Nous venons de voir le syndrome de la bonne élève. Premièrement, ses effets, ensuite la définition, puis les erreurs. Quatrièmement, les sources. Cinquièmement, les bons petits soldats. Sixièmement, du syndrome de la bonne élève à son identité nouvelle, le leadership, avec quatre sous-sections. Donc, première sous-section, le syndrome de la bonne élève bride la créativité et l'expression de soi. Deuxième sous-section, le syndrome de la bonne élève crée un manque de confiance en soi. Troisième sous-section, le syndrome de la bonne élève empêche l'esprit critique. Et quatrième sous-section, le syndrome de la bonne élève est épuisant. Donc, ça veut dire qu'une fois que vous avez vaincu votre syndrome, vous allez développer votre créativité et votre expression de vous-même, vous allez muscler votre confiance en vous, vous allez développer votre esprit critique, donc votre agilité, et vous allez être en plein dynamisme, vous allez renouveler votre dynamisme et votre énergie. Okay? Et septième point, nous avons vu les stratégies pour tirer parti de ce syndrome de la bonne élève, puisqu'il est possible d'en tirer parti. Donc, première stratégie, vous capitalisez sur vos acquis, vos forces, okay, comme un robot. Et deuxième stratégie, vous faites preuve d'agilité. Vous faites du tri dans ce dont vous avez besoin d'apprendre et ce que vous apprenez. OK? Quelle stratégie utilisez-vous déjà? Est-ce que vous capitalisez déjà sur vos acquis, vos forces quand vous découvrez une nouvelle situation? OK? Et est-ce que vous savez faire preuve d'agilité? OK? Quand vous apprenez quelque chose, faire du tri dans ce que vous apprenez, le mettre à votre sauce, l'adapter, etc., etc. Laquelle de ces stratégies pouvez-vous améliorer, intensifier? À partir de quand? Quelle sera votre première action? Et à laquelle et quelle stratégie allez-vous tester pendant le prochain mois? OK? Êtes-vous de la team bon élève ou leader? Et dans quel contexte? Essayez de définir vos contextes ou les situations dans lesquelles vous vous retrouvez en qualité de bon élève et dans lesquelles vous vous retrouvez en qualité de leader. Je vous invite à compléter l'écoute de cet épisode par les épisodes suivants du podcast Jury Nova. Alors, le podcast 20 qui traite de comment gérer le syndrome de l'imposteur, le podcast 22, les 5 freins qui sabotent la carrière des femmes, et le podcast 29, leadership et assertivité. Ce travail de développement de votre leadership, et donc le travail sur le syndrome de la bonne élève, bien entendu, peut être réalisé ensemble dans l'accompagnement de développement professionnel d'une durée de 4 mois. Je vous enseigne dans les modules 6, 7 et 8 pendant un mois comment développer votre leadership, votre assertivité, afin que votre détermination à convaincre et influencer vous soutienne pour obtenir l'adhésion de vos interlocuteurs avec diplomatie, tact, par la pratique d'une communication respectueuse, de l'écoute et de l'empathie. L'objectif est de diminuer votre stress, votre frustration pour gagner en assurance et en crédibilité. Vous adoptez une posture qui vous permet d'augmenter votre aisance relationnelle et de vous détacher du regard et du jugement de l'autre. Vous conservez un climat de confiance autour de vous comme le leader qui est en vous. Vous êtes reconnu et valorisé pour ses qualités humaines dans votre management. Voilà ce que nous pouvons aborder ensemble en toute confidentialité et dans le cadre d'une bulle de bienveillance pendant l'accompagnement de développement professionnel. Si vous êtes intéressé par l'un des accompagnements individuels, donc soit le bilan de compétences, orientation finançable par votre CPF, soit l'accompagnement mobilité finançable par votre CPF, soit l'accompagnement prise de poste, soit l'accompagnement développement professionnel, il reste 2 places en mai et j'ai ouvert 2 places complémentaires aux 2 déjà ouvertes en juin pour préparer votre rentrée. Seulement une place sera ouverte en juillet et une place en août. En mai, nous commençons le mardi 5 mai. Il reste 2 places disponibles pour l'instant. En juin, nous commençons le lundi 5 juin et il y a 4 places disponibles. En juillet, nous commençons le lundi 17 juillet. Il reste une place disponible. Et en août, nous commençons le lundi 7 août et il reste une place disponible. Le process est simple. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site jurinova.fr, J-U-R-I-N-O-V-A, ou directement dans mon agenda sur le site pour l'entretien exploratoire qui est gratuit et confidentiel. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous invite à lire l'article de blog associé à cet épisode sur le site www.jurinova.fr. Jurinova, c'est J-U-R-I-N-O-V-A. Je vous offre également un cadeau de bienvenue, la roadmap dédiée à la réussite de votre négociation salariale. Vous y trouverez les 6 étapes à respecter et les 4 erreurs à ne surtout pas faire. Pour obtenir votre roadmap gratuite dédiée à votre négociation salariale, c'est très simple. Rendez-vous sur mon site www.jurinova.fr, sur la page accueil et téléchargez-la, c'est gratuit. J'espère que cela vous aidera. Je vous invite également à vous abonner à la newsletter hebdomadaire des Jurinova. Mon objectif, que vous bénéficiez d'une pause le mercredi dans votre quotidien surchargé. Je vous partage des conseils carrière, les expériences de mes clientes et clients, des astuces, des livres inspirants, des podcasts passionnants et autres inspirations à travers des emails privés. Vous profiterez également de contenus inédits. Pour vous abonner, c'est toujours très simple. Rendez-vous sur mon site jurinova.fr ou sur la page d'accueil. Je suis votre hôte, Cynthia Anison-Lorbert. Cela fait plus de 15 ans que j'exerce le droit. Fondatrice du cabinet Jurinova, dédiée à la stratégie de carrière des juristes, je suis comme vous une ancienne responsable juridique en fusion et acquisition. J'ai exercé pendant 15 années dans un groupe financier international. Et je suis encore responsable juridique au sein du cabinet de consulting et coaching Jurinova que j'ai fondé, qui est aussi un organisme de formation certifié Calliope et éligible au CPF, pour votre plus grand bonheur. C'est-à-dire vous permettre de bénéficier de mes accompagnements via le financement de votre CPF. Que ce soit le bilan de compétences, l'accompagnement à la mobilité, l'accompagnement à la prise de poste, le développement professionnel sur la gestion de votre temps, la gestion de vos émotions, votre assertivité et votre leadership, ou la gestion de situations complexes, voire conflictuelles. Je suis également coach professionnel certifié, spécialisé dans les transitions professionnelles des juristes. Et j'interviens également très régulièrement à la FJE pour animer des ateliers carrière à destination des juristes. Autant vous dire que le sujet de la carrière des juristes est une passion pour moi. J'ai donc décidé d'en faire mon métier tout en continuant à l'exercer à travers ma société et mon organisme de formation soumis au Code du travail. Voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode de Jurinova. Un grand merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que le format vous a plu. Si oui, dites-le-moi avec 5 étoiles, même un petit commentaire sur Apple Podcast. Cela ne vous prendra que quelques instants, mille merci. C'est vraiment précieux pour moi, cela m'aide à faire connaître le podcast Jurinova. Si les commentaires ce n'est pas votre truc, ce n'est pas grave, il y a d'autres moyens de m'aider. Vous pouvez tout simplement en parler autour de vous, avec 2 ou 3 amis ou 2 ou 3 collègues, et puis diffusez-leur le podcast. Moi, ça m'aide énormément, et qui sait, cela les aidera aussi peut-être. Quoi qu'il en soit, un grand merci pour votre temps. N'hésitez pas à m'indiquer aussi les sujets qui vous intéressent si vous avez envie que j'aborde certaines thématiques au micro du podcast. Écrivez-moi sur LinkedIn, Cynthia Anison-Lorbert, ou Instagram, Jurinova, en messagerie privée. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour le podcast 49 avec le format interview sur le sujet suivant, de juriste à directrice juridique. Et j'accueillerai avec beaucoup de plaisir Marie Brunello, directrice juridique du groupe Xeliance depuis 2009. À vendredi prochain, belle journée à vous, chères juristes talentueuses ou talentueux. Prenez soin de vous. Bye bye.